Music du Monde, Laurence Alloa, Tegui Mfatroré. Music du Monde sur RFI.
Des bruits de bottes, des digues ding ding, des pieds nus dans un parc, des bancs bien gaulés. Bienvenue dans les musiques du monde qui vous propose en fin d'émission une sélection très fin du monde, très youpla boom en cinq actes avec Sofian Fanon. Mais c'est l'artiste portugaise Katia Guerreiro qui ouvre la séance avec la sortie de son nouvel album de fado, Sempre. Un album qui se réfère à la révolution des œillets qui en avril 74 déposa le sieur Salazar et ses 41 années de régime militaire. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Katia, sortez-nous de là.
A minha vida é dar-me ao fado mais sentido, cantar é sonho vivido e encontrar cantando mais calor. E enquanto canto eu perco medo, abro a vidraça, mostro quem sou a quem passa e dou-me inteira ao amor.
Katia Guerreiro, bonjour ou bonsoir, c'est selon.
Bonsoir.
Comment ça va?
Bien, bon. Très bien.
Vous avez un nouvel album qui est sorti, ça fait 9 ou 10, 9 albums studio, 10 si on compte le live à l'Olympia, c'est
oui.
À peu près ça.
Oui.
Qui s'appelle Sempre, ça veut dire un peu toujours.
Toujours.
Toujours. Donc vous allez bientôt fêter 20 ans de carrière, excusez-moi de vous vieillir de quelques
non,
secondes.
Non, pas encore, pas 20 ans,
oui, mais
18.
On anticipe. C'est 20 ans de carrière pendant quelques années, quoi.
Oui, quelques années.
Alors, Katia Guerreiro, la difficulté dans votre répertoire, c'est de se renouveler parce que le fado a imprimé quand même sa marque depuis le début du 19e siècle au Portugal. Mm-hmm. Donc, c'est porteur de beaucoup de traditions, d'écrivains, de musiciens, d'interprètes. Évidemment, au 20e siècle, c'était Amália Rodrigues, enfin Amália Rodrigues, si on prononce toutes les lettres. Comment on se débrouille ?
Il y a ceux qui croient que doit mettre des choses différentes sur le fado. Moi, je fais que du fado traditionnel classique. Bien sûr que j'ai aussi des compositions contemporaines. Mais en fait, je crois que c'est l'interprétation, le choix des poèmes, le choix des auteurs qui donnent une âme différente au fado, qui emporte des paroles qui peuvent être universelles. Je chante le fado par tout le monde. Je voyage beaucoup par tout le monde. Et l'expérience que cette vie m'a apportée, c'est de l'universalité des émotions. Et dès que je suis honnête avec mon âme, dès que je suis honnête devant les autres, j'emporte toujours des nouveautés. Parce que moi, je ne suis pas pareil à autre personne au monde. Je suis unique, comme vous êtes unique, comme chaque personne au monde est unique. Mais en fait, les émotions sont universelles. Et on doit chercher la vérité des émotions et la vérité des sentiments pour nous rapprocher aux autres. Même si les autres ne comprennent pas notre langue, ne comprennent pas le portugais. La vérité, c'est toujours un miroir de l'humanité.
Vous démarrez cet album avec un prologue.
A minha vida é.
Et c'est un titre entièrement signé Katia Guerreiro.
Guerreiro.
Guerreiro. Oui. On va en rester là, restons amis. Je vous appellerai Katia jusqu'à la fin de l'émission.
Katia, oui, ça va.
La plume ne vous est pas étrangère, la composition non plus.
Non. J'ai créé ça il y a beaucoup de temps. Mais j'ai gardé ça dans des petites boîtes chez moi. Chez moi, dans mon cœur. Parce que j'ai jamais écrit ça. Je chantais ça à ma maison, toute seule. Jusque maintenant. Pour résumer, la minha vida é, que ça veut dire ma vie est, c'est la déclaration de ce que j'ai décidé de faire avec ma vie. Et ma vie, c'est d'ouvrir mon cœur, ouvrir l'âme et chanter pour tout le monde. De donner ce que je suis sans avoir protection, je ouvre mon cœur au monde.
Ça vous fragilise ou ça vous renforce ?
Ça me renforce.
Attention hein, aux opérations portes ouvertes, quand même. Je vous propose d'écouter un titre, c'est la chanson que vous avez interprétée avec José Mario Branco. Quem diria?
Quem diria? Qui pourrait dire?
Qui pourrait dire? C'est sur RFI dans les musiques du monde avec Katia Guerrero.
Se o meu destino eu soubesse encontrar sem GPS, não te tinha perguntado para que lado, para que lado, e tu respondeste afoito.
Quero almoço e cama feita, não procuro muito mais, mas nunca vira à direita.
Eu ali olhar sozinha à procura do caminho, com as buzinas já tão perto e o semáforo aberto. Oh senhor, fale-me a sério, não está a ver que me atrasa.
Mais a sério não podia, fique já em minha casa.
Quem diria, num acaso tão bicudo, só por tudo. Quem diria que ao levar-te para onde vais, estacionava ali o carro e não lhe mexia mais. Quem diria que à espera que a fila andasse, eu não encontrava nada se eu a ti não perguntasse. Quem diria que ao dizeres-me para onde ia, eu deixava ali o carro e nunca mais lhe mexia.
Quem diria? Non. Quem?
Quem diria?
Qui dirait? Vous êtes en duo avec José Mario Branco.
C'est un des plus grands noms de la musique portugaise. Il était un musicien, artiste, chanteur, compositeur d'intervention. Il était exilé à Paris pendant quelques années.
Ben, on rappelle que jusqu'en 1974, vous êtes pris quand même une quarantaine d'années de dictature au Portugal. Donc
oui,
certains artistes ont été obligés de partir.
De partir, c'était Monsieur. Son cas. Il est venu à Paris. Mais quand même, il était toujours lié au mouvement de révolution. Il est un des visages plus importants de la révolution portugaise.
Je vais vous faire écouter un morceau, vous allez me dire ce que ça vous évoque.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Katia Guerrero.
José Mario Branco est le producteur de cette sonorité, la chanson qui est le drapeau de la révolution portugaise.
L'hymne de la révolution.
L'hymne, chanté par Zeca Afonso, qui est le grand nom de la révolution.
Quand cette chanson est passée à la radio, c'était le coup d'envoi du putsch. C'est donc le 25 avril 1974. Et donc, vous travaillez avec l'arrangeur et la personne qui a travaillé sur ce morceau historique. En 1974, de mémoire, vous n'étiez pas né.
Non.
Vous étiez une hypothèse.
76.
Oui, vous avez attendu 2 ans, vous avez attendu que les portes se libèrent au Portugal. Quelle bonne idée.
Voilà.
Comment vous avez convaincu José Mario Branco de travailler avec vous?
On a eu une expérience ensemble. Avec un film qui a été... les tournages sont passés à Lisbonne. C'est un film sur le fado et la condition actuelle de fado dans les quartiers typiques de Lisbonne. Moi, je suis actrice pour la première fois dans ma vie. Je suis invitée pour le directeur du film et José Mario Branco a été le producteur musical. Il a fait toute la direction musicale et artistique de ce film.
C'était Alfama MC ou c'est un autre
Alfama MC,
si.
Voilà.
D'accord.
Et c'était...
Dirigé par le neveu d'Amalia Rodrigues.
Oui, voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup apprécié la façon intelligente de direction de José Mario Branco. Surtout avec moi, parce que c'était mon expérience personnelle. J'étais fascinée pour la langage poétique de ce magnifique homme. Et moi, quand j'ai commencé à penser sur le nouveau album, j'étais angoissée, beaucoup angoissée, parce que j'avais besoin d'un producteur musical. Et j'étais à parler avec mon grand ami qui habite à Bogota, en Colombie. Et je lui dis, mais je veux faire le nouveau album, mais je n'ai pas encore le producteur. Il m'a dit, mais tu parles toujours de José Mario Blanco, pourquoi tu ne l'appelles pas et l'invites à faire... Non, il va refuser. C'est sûr qu'il va refuser parce que, en première vue, nous sommes des personnalités très, très différentes. Lui, un homme très... avec un charisme poignante, mais encore mais très sérieux. Il laisse passer une image d'austérité. Et moi, je suis comme ça. Très proche. Et on a des positions différentes dans plusieurs choses.
Mais vous n'avez pas le même vécu. C'est un antifasciste, il s'est battu, donc forcément, ça forge le caractère.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'avais peur d'être refusée. Mais je lui ai appelé. On a eu une énorme conversation, mais j'ai dit non, j'ai pas peur de travailler avec vous. Je sais par cœur tout ce que tout le monde dit de vous, mais j'ai pas peur. Je veux travailler avec vous. On a beaucoup discuté sur le fado, ce qui se passe avec le fado, les choses que les gens font maintenant autour de fado. Et en fait, on était au même état de conscience sur la tradition du fado, ce qu'on doit maintenir, ce qu'on doit préserver du fado.
Il est protégé, le fado, maintenant. Il fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2011. Enfin, oui, ça n'empêche pas que dans certains quartiers, on se croirait à Disneyland.
Mais quand même, il y a de... On ne peut pas protéger complètement. Il y a toujours des choses qui sont un petit peu en satellite autour du fado, qui ne sont pas fado, mais qui sont vendues comme fado. Et on est arrivé à la conclusion que nous sommes au même état d'esprit sur le fado. Et enfin, il a dit, OK, on va faire un petit contrat. On va essayer de faire un disque ensemble. Essayer. Et si quelque chose ne se passe pas bien, moi ou toi, on part pour notre vie, de nouveau, séparés, amis comme avant. On n'était pas amis du tout. Et en fait, quand on a commencé à travailler, à faire le choix poétique, le choix des morceaux traditionnels, tout, il était toujours avec une posture rigide. Mais le temps a passé, pas trop de temps, en fait. Et on a commencé à s'embrasser chaque fois qu'on se rejoindre. Pour chaque réunion, on avait quelque chose de plus chaleureux autour de nous. À la fin de tout ça, José Mario Blanco, il m'a emporté la complexité des choses simples pour cet album. On a récupéré la simplicité, la simplicité difficile du fado. Et je crois que c'est ça qu'on sent en écoutant cet album. À la fin de ça, José Mario Blanco m'a dit, OK, on a fait un très bon travail, un magnifique travail qui tout le monde peut entendre. Mais moi, j'ai gagné une fille.
T'as une tristesse vieille, tant vieille. Que não sei bem se sou eu que sou mãe dela, se é ela que é minha mãe. Tenho uma tristeza velha, tão velha que não sei bem. Vai comigo, vida fora. Deu-me o destino, por sorte. Está presente a cada hora. Cada hora vai comigo até à morte. Tento lutar, enfrentá-la, fingir que até sou feliz. não consigo enganá-la, nem arrancar-lhe a raiz. Ai, esta tristeza velha, tão velha, que não sei bem. Ai, esta tristeza velha, tão velha, que não sei bem se sou eu que sou mãe dela, se é ela que é minha mãe. Não sei bem se sou mãe dela, se é ela que é minha mãe.
Là, on vient d'écouter le titre Tristeza Velha, comme ça qu'on prononce.
Oui, très bien. Tristeza Velha. Il y a le poème qui a été écrit par Maria Luisa Batista. Maria Luisa Batista est une personne qui est une des personnes plus importantes dans ma vie. Elle est comme une deuxième mère pour moi. Et ce morceau-là, Tristeza Velha, c'était son dernier poème qu'elle m'a offert dans sa vie. Elle est partie et ça parle d'une tristesse.
Est-ce que dans le fado, on peut échapper à la fatalité d'être triste, ce qu'on appelle le saudade? Le fado peut exprimer autre chose ou c'est vraiment quelque chose de très nostalgique? Ce sont des chansons à pleurer, parce que dans le fado, il y a aussi des titres sur lesquels on peut danser, mais
oui, bien
c'est
sûr.
Rare.
Le fado n'est pas forcément une chanson triste, comme la saudade n'est pas forcément un sentiment triste. La saudade, c'est quand quelque chose, quelqu'un ou quelque endroit nous manque. Et s'il nous manque, c'est pour qu'il a déjà emporté quelque chose de bien. Ça, c'est la saudade. La tristesse, c'est autre chose. La tristesse, c'est quelque chose qu'on a dedans qui ne nous fait pas de bien du tout, qui nous laisse, qui nous fait tomber au sol, qui nous fait chercher la solitude, qui, même si on a un million de personnes autour de nous, on se sent toujours seul. La tristesse, c'est une douleur qu'on ne sait pas convaincre à sortir dans notre cœur. Et c'est cette tristesse de quoi je parle dans ce morceau. C'est la tristesse qui je ne sais pas guérir.
Katia Guerrero aurait pu arriver à RFI avec une veste de générale parce qu'elle croule sous les décorations et les récompenses. En 2010, la Fondation Amalia Rodriguez lui décerne le prix de la meilleure interprète de fado. C'est un peu comme si elle recevait un master, un diplôme qui vous reconnaît le droit d'être une authentique fadiste. N'est-ce pas, Katia ?
Oui, pour ceux qui pourraient avoir des doutes sur moi, peut-être c'est un diplôme. C'est comme réussir à la fin de mes études de médecine. J'ai le diplôme de médecin et maintenant j'ai le diplôme de Fondation Amalia Rodriguez.
Vous êtes en train de dire aux auditeurs de RFI que vous êtes également médecin et interprète et écrivain
oui.
et compositrice de fado. Vous avez été médecin urgentiste à Lisbonne, vous êtes ophtalmologue, ça fait beaucoup. De temps en temps, vous repartez faire un peu de médecine et vous arrêtez le chant?
Non, maintenant. Ma fille, elle est née il y a 6 ans et je suis arrêtée avec la médecine. Bon, la maternité est arrivée, je dois avoir du temps, je dois profiter de tout ça. C'est une autre chose que ma vie m'a offert.
Quand est-ce que la musique est arrivée chez vous? Parce que vous avez fait des études de médecine, c'est assez long. Est-ce qu'en même temps, vous aviez l'opportunité de prendre des cours de chant, d'avancer musicalement?
Non, j'ai jamais appris la musique.
En plus, vous êtes en train de nous dire que c'est naturel. C'est très agaçant. Hein. Ça veut dire que vous avez beaucoup de dons, que vous êtes douée. Il y a un côté un peu génial, quoi.
Non, génial, non. Dieu m'a donné ça. Je chante spontanément. J'ai jamais appris, j'ai jamais écrit une note musicale.
Ce que je dis, c'est très agaçant. Non, mais il y en a qui, à la naissance, récupèrent tout le paquet, puis les autres...
Pardon.
Non, c'est une grâce, c'est génial.
Oui, c'est finalement, je l'utilise, j'essaye de faire du bien aux autres avec ça.
não ouço no ar a tua voz. Entre brumas e segredos escondidos, descubro no silêncio entre nós. Esse brilho que é o teu, procuro a madrugada que me acoite num poema que não escrevo, mas é meu. Olha o vento que se estende no caminho e ensaia a tua ânsia de voar. És gaivota que só chega a fazer ninho quando o tempo te dá tempo para amar. Mas também se perde o tempo se tem para gastar só quando chega a primavera. Veste um fato de saudade, amor, e vem, que é inverno, mas eu estou à tua espera.
C'était le morceau Distante qui évoque un amour distant évidemment, donc de loin, a priori ça ne transpire pas à la sérénité. Katia Guerrero, quel est le thème récurrent de votre répertoire?
C'est l'amour. L'amour, c'est le thème de la vie. C'est le thème pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez une personne qui ne veut pas aimer?
Oui, mais elle est morte.
Voilà.
Merci Katia Guerrero.
Merci à vous.
Le 24 mars, Katia Guerrero se produira à Paris, au Trianon, dress code, châle noir, œil en berne, on ne pourra pas se rater. Chaque mois, Safian Fanel, l'expert de la chose qui fait un bruit fou et que nous appelons musique, partage ses obsessions avec vous. C'est un régime sensuel, mensuel et hyper Michel. Enfin, je veux dire, Michel Legrand. Ding, ding, ding.
Et ce ding 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 vous était offert par Sofiane Fanon qui chaque mois vient faire une programmation, 5 titres, 5 albums qui lui semblent indispensables pour le mois. Ça c'était Michel Legrand. Est-ce que vous lui rendez hommage ou vous avez envie de le critiquer? Attention hein, trois fois oscarisé, attention.
Un petit peu des deux. Non mais c'est bien entendu gigantesque et copieuse et longue carrière, donc fouillons maintenant.
Je crois qu'il fouillons, qu'on va avoir le temps.
Non mais c'est vrai que là c'est exactement le propos de ce morceau que j'ai pas choisi pour les paroles hein, qui sont pas passionnantes, mais c'est l'exemple de la carrière à tiroir de Michel Legrand. On connaît les Moulins de mon cœur, on connaît Demoiselle de Rochefort, on connaît même éventuellement la BO de la piscine, ces choses là mais derrière il y a énormément de choses qui ont plus ou moins bien vieilli. Hein. Quand on réécoute le fameux coffret Michel Legrand qui est sorti il y a quelques temps et qui est ressorti un petit peu avant sa mort, là, dedans, il y a des choses qui ont très mal vieilli, des choses un peu sirupeuses, etc. Ça peut être assez prétentieux, Michel Legrand. Mais en même temps, il y a plein d'aventures sonores qui, aujourd'hui, ne demandent qu'à être revues et peut-être justement laisser un petit peu les choses décanter et puis ne vont surnager que s'il nous intéressera sur le long terme. Ce qui est intéressant avec ce ding 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 là, il est tiré d'un disque de 64, donc c'est la même année que les Demoiselles de Rochefort. C'est un disque qui s'appelle Archicorde et qu'une blague en fait, qui est une moquerie de Michel Legrand, mais une moquerie faite très sérieusement, parce que Michel Legrand, quand il voulait se moquer de quelqu'un, il convoquait un orchestre en studio, il prenait 3 semaines pour enregistrer et il sortait un disque. C'était quand même une époque où on pouvait se moquer avec des moyens assez copieux. Et c'est l'époque des yéyés et c'est aussi l'époque des reprises, des tubes de l'époque avec des cordes, des grands orchestres très sirupeux. Il y en avait beaucoup de disques comme ça. Michel Legrand dit bon allez, tout ça c'est trop facile, regardez le yéyé comment c'est facile, et il enregistre ce disque avec comme idée de faire une version acide, une version vraiment passée à l'acide sulfurique, enfin c'est vraiment ces mots, des cordes notamment. Alors pendant tout le disque, les cordes en fait on en a que les aigus, toutes les basses sont complètement enlevées et on a une sorte de truc un peu, il y a un peu un petit côté Hitchcock dans les cordes de ce disque, elles sont très nerveuses comme ça, et c'est ce qui leur donne une sorte de modernité bizarre qui aujourd'hui encore en 2019 font qu'on peut écouter ce disque très bondissant, très bizarre, très moqueur, on dirait des indicatifs de radio, de télévision. D'ailleurs c'est principalement pour ça que les morceaux ont été utilisés. Il a eu son petit succès à l'époque, les gens l'ont pris au sérieux pendant 6 mois, après on a un petit peu oublié et maintenant on sait que c'était un disque un petit peu pour s'amuser, mais le disque a quand même été utilisé dans énormément de publicités depuis, énormément d'indicatifs de radio, de télévision de cette moquerie, et reste voilà, quelques compositions bizarrement modernes en fait.
Autre français que vous avez choisi pour cette nouvelle édition, c'est Bertrand Belin. Avec lui, le mot élégance trouve toutes ses lettres de noblesse.
Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur, je chéris ton cœur, adoré. Architecture manquée, un méandre de la cité. Allons bon, cachant ta main raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit je pars. Par un seul, je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, adoré. Tournant un va vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu. Songeant au sommeil, mathématique des grues, je chéris ton cœur, adoré. La nuit, je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, oh, adoré.
Bertrand Belin sur RFI dans les musiques du monde. Le nouvel album s'appelle Persona. Personnage intéressant, Bertrand Belin, écrivain, a commencé dans le Zydeco, a joué avec des Anglais, et puis a une carrière perso depuis 2005, à peu près.
Et il a un CAP d'électricien.
Le papa est pêcheur.
Voilà, ce qui n'est pas le moins intéressant de sa personnalité, parce qu'on a l'impression de quelqu'un d'un peu bourgeois, comme ça, très, très apprêté, très dandy parisien, etc. En fait, il est de Quiberon, il a un CAP d'électricien, et il est rentré dans la littérature très tard, d'ailleurs, en fuyant littéralement son père violent, débarque à Paris et il tombe dans les livres comme refuge et il continue à écrire des livres. D'ailleurs, il a une carrière d'auteur en parallèle de sa carrière principale qui est celle de musicien. Mais en même temps, cette carrière est bizarre aussi. Pourquoi la musique de Bertrand Belin marche ? C'est un grand mystère, parce que c'est quand même d'un minimalisme très froid, très sec, très c'est abstrait, c'est mystérieux. La voix est belle, mais on peut pas dire qu'elle soit avenante. Tout ça est toujours un peu parlé, chanté.
Madame, monsieur, j'ai
voilà.
Glissé.
Je me suis toujours demandé pourquoi Bertrand Belin, ça marche.
Une forme d'élégance.
Voilà, mais en fait c'est ça, c'est élégant, c'est beau, et surtout chacun y trouve. Ce qu'il veut y trouver, c'est la beauté de ses textes. La musique n'envahit pas la tête de l'auditeur, la musique n'envahit pas l'espace sonore, elle est là, elle est belle, hein, souvent la musique. Ce nouvel album, c'est le sixième, hein, il est très beau avec ses petites couleurs électroniques, pour la première fois, les petits synthés, les petites boîtes à rythme, vraiment minimaliste. Hein, c'est le synthé à trois doigts, la boîte à rythme, il a programmé un petit beat, ça va pas plus loin. Mais en même temps, c'est très bien comme ça. Et quand il utilise des cordes, ça va pas beaucoup plus loin, les guitares aussi, tout est très minimaliste chez Bertrand Belin. Et je pense qu'en fin de compte, c'est pour ça que ça fonctionne vraiment. Et puis le garçon est très attachant, très sympathique, très drôle. Sur scène, il est très drôle. En fait, il n'a pas l'air du tout drôle dans ses disques, mais sur scène, il est vraiment drôle.
Sofiane Fanen, je vous pousse dans un cargo de nuit, éventuellement, pour rejoindre Deer Hunter, qui, eux, sont aux États-Unis.
Silence.
Hunter sur RFI dans les musiques du monde, c'est le genre de musique qu'on n'écoute pas souvent dans cette émission parce qu'on est plus branché sur des groupes, j'allais dire sud, mais c'est pas vrai parce qu'on aime autant la Scandinavie, l'Asie, l'Amérique du Sud que le continent africain. Alors Dear Hunter, c'est un groupe qui vient d'Atlanta.
C'est un groupe du sud aussi quelque part.
Oui, la Géorgie, c'est vrai. Un autre sud.
Un autre sud. Et c'est moi, c'est un groupe auquel je suis très très attaché. C'est son 8e album depuis tout début des années 2000. Donc groupe très productif, même si ce 8e là s'est fait un petit peu attendre. Et c'est un groupe dont on n'entend pas énormément parler, hein, mais qui a son public, qui remplit bien des salles, etc., et qui s'est installé parmi les valeurs sûres pop rock. Moi, c'est vrai que quand je viens ici, j'amène assez rarement des groupes pop rock parce que je suis un peu parti dans autre chose musicalement et j'y trouve rarement des choses passionnantes, mais Dear Hunter, j'y reviens toujours, parce qu'il y a une qualité d'écriture, il y a une évidence pop qui est vraiment redoutable, notamment ce disque-là, qui est vraiment le canon pop de Dear Hunter, parce que Dear Hunter peut dévier vers des phases un peu instrumentales, ambiantes, psychédéliques, des murs de son incroyables. C'est un groupe qui peut être assez difficile d'accès.
Il va bien le chanteur ?
Il va pas mal.
Bradford Cox.
Oui, il va bien. Bon, il a toujours ses problèmes de santé, mais finalement, il va plutôt très bien ces derniers temps. Et sur ce disque-là, son intention, c'est qu'est-ce que c'est qu'écrire de la musique pop aujourd'hui ? À quoi ça sert ? Et pourquoi on écrit de la musique pop ?
Il répond.
Et il y répond par le vide, je dirais, en appelant ce disque Pourquoi tout n'a pas encore totalement disparu, et en écrivant un disque qui ne fait que s'interroger sur l'état du monde, même en termes écologiques, hein. C'est un disque qui dit ces choses-là. Regardez le monde, là, il est complètement en train de partir en vrille et c'est complètement de notre faute. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut continuer à s'intéresser aux gens qu'on aime et à notre petit précaré, effectivement, parce que c'est super important de continuer à s'intéresser aux gens qu'on aime et aux choses qu'on aime et à la musique. Mais pourquoi, en fin de compte, on n'est pas capable aujourd'hui de s'élever ? Il le dit lui-même. Moi, en tant que chanteur de groupe pop-rock, je ne suis pas capable d'avoir un discours qui est percutant et qui va intéresser mon auditoire, parce qu'en fin de compte, ça ne fonctionne plus. La grande époque des années 80 où on avait Bruce Springsteen et Michael Jackson et tous les chanteurs qui se réunissaient pour faire des chansons pour sauver le monde, aujourd'hui, en fait, ce n'est plus possible.
Oh bah regardez la tête de Bob Dylan à l'époque de We Are The World.
Ce côté un peu donneur de leçons, en fait.
Constipé, hein.
Le côté donneur de leçons ne passe plus.
Ouais.
Et en fait, Bradford Cox se retrouve enfermé dans son rôle de musicien, poète, guitariste, etc. Et il fait des très belles chansons. Mais comme s'il était bloqué, et c'est un disque assez triste dans ce sens-là.
Autre personnage extrêmement joyeux, anglais celui-ci, James Blake.
Skies looking up earth.
chaise.
Alors, une petite voix espagnole qu'on reconnaît, c'est Rosalía. James Blake invite cette jeune artiste espagnole, enfin Barcelone, oui, c'est l'Espagne, on peut dire.
Oui, allez, c'est encore l'Espagne.
Lance-nous. Osons.
Oui, il invite Rosalía sur ce disque qui est son quatrième. Et très franchement, ils auraient dû faire le disque entier ensemble parce que le reste de l'album n'est pas au niveau de ce morceau-là qui est vraiment magnifique. Vous avez remarqué que je suis pas né de la musique follement joyeuse cette semaine. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que
la corde à nœud est fournie en sortie du studio.
Alors James Blake, en fait, c'est quelqu'un qui était plutôt dans l'ombre. C'est un producteur donc britannique à la base. Hein, il est de Londres, producteur qui fait de la musique pour d'autres ou un petit peu pour lui. Au début, il chantait pas du tout. Et puis petit à petit, il est sorti un peu de sa carapace, il s'est un peu fait violence, il s'est mis à chanter avec cette voix très blanche, très une sorte de soul très électronique, souvent filtrée, etc. Il y a pas mal d'effets sur sa voix. Toujours avec cette production britannique typique des années 2010, une sorte de minimalisme, mais en même temps on sent que le dubstep est passé par là, que la grime est passée par là. Donc il y a des grosses basses, il y a des grosses textures sonores, c'est assez travaillé, le moindre son est extrêmement travaillé, mais tout est très retenu. Et il s'est mis à chanter petit à petit, et il a découvert que ça lui faisait du bien. Il a quitté Londres pour Los Angeles, il est tombé amoureux, et tout ça fait que il y a un peu plus de soleil aujourd'hui dans sa musique, un peu plus de légèreté, même s'il faudrait mettre plein de guillemets autour du mot légèreté pour James Blake. Surtout, il a été adoubé, si ce n'est récupéré, par aussi bien Kanye West que Beyoncé, que le très gros de la production américaine qui ont fait appel à James Blake pour des productions sur un disque de Beyoncé, etc. En fait, c'est comme s'il allait à des grosses fêtes à Los Angeles où tout le monde fait la fête autour de la piscine, tout est extrêmement exubérant, mais lui en fait il reste dans la cuisine à boire des petits verres et à parler à deux personnes parce que c'est quand même pas quelqu'un qui est très à l'aise en société.
On va terminer, vous allez terminer cette programmation avec Vera Sola. Alors Vera Sola, c'est une héritière, mais c'est pas pour ça qu'elle a eu plus de chance que les autres, c'est la fille de Dan Aykroyd, le comédien canadien qui a fait plutôt carrière aux États-Unis, qu'on a connu évidemment avec les Blues Brothers et SOS Fantôme. Alors Vera Sola.
Oui, alors je ne savais pas du tout que c'était la fille de Dan Aykroyd.
Je suis allée sur Internet, exactement, parce que je ne le savais pas la semaine dernière non plus. Mais
voilà,
bon,
je suis tombé sur ce disque.
On gratte.
Voilà, je suis tombé sur ce disque.
J'espère
vraiment,
que c'est la bonne bio.
Au hasard, ouais, c'est bien elle. Au hasard des pérégrinations musicales, je ne sais pas du tout comment je suis tombé sur ce morceau. C'est le mystère et la beauté bizarre de la circulation de la musique en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui nous arrivent, ou alors on les cherche, mais on ne se rappelle plus trop. Je suis tombé sur Vera Sola, et donc je ne savais pas que c'était la fille de Dan Aykroyd. À la limite, on s'en moque un peu. Je ne savais pas que c'était une musicienne que j'ai déjà vue sur scène plusieurs fois avec Elvis Perkins, autre fils de grand artiste, qui était le fils de Anthony Perkins. Et Elvis Perkins, qui a perdu ses parents et qui a fait de la musique pour sortir tout ça de lui-même et passer un petit peu à autre chose autant que ce soit possible. Et Vera Sola, en fait, il l'a embarqué. Donc, c'est des amis un peu de la bonne société new-yorkaise. Ils ont fait des bonnes écoles, etc., etc. Ils devaient se croiser dans des fêtes où va James Blake aujourd'hui. Et
ils vont tous faire des discussions.
Voilà. Il a emmené Vera Sola qui faisait un peu de la musique dans son coin, mais qui faisait surtout des voix pour des dessins animés, des films, etc. Elle n'était pas du tout partie pour faire de la musique.
Elle a une drôle de voix.
Il l'a embarqué sur scène, oui. Et c'est devenu sa bassiste de tournée. Super groupe de scène d'Elvis Perkins, qui a fait deux beaux disques. Et elle a continué un peu dans son coin et jusqu'à enregistrer ce disque en 2017, qui est sorti toute fin 2018. Tout le monde est passé à côté de ce disque-là. Et vraiment, c'est un beau disque. Donc, elle fait tout toute seule. Tout est somptueux, elle a une belle voix, une sorte de vibrato bizarre, un peu une voix très mate. C'est aussi un disque sur la fin du monde et sur la disparition des rhinocéros et sur notre incapacité à se sortir un peu de ce moment où on ne sait pas du tout où on va et dans quoi on est en train de se mettre. C'est aussi un disque d'interrogation. Je trouve ça assez intéressant d'avoir des musiciens qui remettent tout ça sur la table aujourd'hui, parce que les artistes soient aussi acteurs de cette non plus prise de conscience parce qu'il est trop tard, mais action. Je pense qu'il faut. Les artistes sont aussi des éléments de tout ça, et voilà. Mais avant tout, magnifique disque, premier album qui s'appelle Shades.
These are the flowers that you hate. These are the colors for your mother's sake. All of this climbs the walls where poets go to die. These are the petals
scramble to walk stay.
Tous les artistes qui sont passés dans cette émission sont évidemment sur la page d'accueil de Musique du Monde sur le musique.rfi.fr. Donc vous avez les titres, les références, comme ça vous n'êtes pas planté. Sophie Anfanan, merci d'être passée.
Merci.
Je vous dis à dans un mois et je vous souhaite le meilleur. Comme je sais que vous êtes papa et que vous vous inquiétez sur l'environnement et que vous avez mis en avant des artistes qui se posent des questions, eh bien je vous félicite, je vous trouve très optimiste. Bravo.
Il faut l'être.
Non, non.